sur la bande. Are you ready?
On met notre carte, nos gants et tout notre équipement.
Ouais.
Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment.
Chaque moment.
Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire ou pour soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée.
Surclassée.
Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la glace, tout est permis.
La saison 5, c'est parti. Yes.
Non, il aura pas de chichi. Non. Ici, pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis.
Ouais.
Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits. Notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités. Avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande, faut écouter, ici c'est le podcast du hockey. Du hockey.
Sur la bande, are you ready?
On met notre carte, nos gants et tout notre équipement.
Ouais.
Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment. On met notre carte, nos gants et tout notre équipement.
Ouais.
Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment.
Chaque moment.
Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire ou pour soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée.
Surclassée.
Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la glace, tout est permis.
La saison 5, c'est parti.
Yes. Il aura pas de chichi. Ici, pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis.
Ouais.
Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits. Notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités. Avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande, faut écouter, ici c'est le podcast du hockey. Du hockey.
Salut Zach.
Oh, salut Seb.
Ah, ça va bien?
Et toi?
Oh yes, super, ouais, il y avait une super position de mis, il n'y a pas de problème. On a arrangé ça. Yes, ça va super bien. Alors, on est déjà au deuxième épisode de la saison. On a un invité de la dernière minute. Merci encore à Marc-Olivier d'avoir accepté un changement. On va parler tout de suite des commanditaires. Merci encore au Boutin Performance Commanditaire Or pour cette deuxième saison. Innove Agence, c'est notre site web, des gars très intéressants, ils ont un segment aussi à eux autres. Ça a été une très grosse job de faire le site web, c'était un très gros changement, ils ont réussi haut la main, on pourrait dire. Molson Coors, j'ai une petite black label juste pour ça. par Steve Lord, merci encore, je vais te laisser les autres.
Yes, Wonderbread par Maurice Bordelot, merci beaucoup. Sophie Saint-Cyr, Prévost courtier immobilière. Courtier immobilier. Merci énormément. DJ Jeff Gadouri en mode podcast. Merci beaucoup. Sans oublier, c'est quoi le nom de celle qui fait nos images? L'excuse. C'est
le Mordant du Nord, c'est Danaëve Pelletier.
Du Nord, effectivement. Et Rage Pat, Lamotte.
Patrice Lamotte, ouais, c'est ça.
Patrice Lamotte pour la musique d'intro pour la deuxième année de suite.
Ouais, très. Tu sais, j'ai fait un texte, il a modifié des affaires. Mon père a fait le son. Ça a été une grosse job des trois parties, mais mon frère il a participé un peu. On a essayé de trouver des rimes qui fit. Je pense que ça donnait un bon beat. Je l'aime mieux que la saison passée, même le beat. Je sais pas si toi aussi.
C'est pas ça l'affaire, c'est que là, il est original.
Ouais, non, c'est ça.
Il a passé une mauvaise surprise, puis.
Non!
C'était pas un beat original, mais là, il est créé par Jeff, t'as dit?
Ouais, c'est lui qui a fait le beat, Pat qui a mis sa voix. Vous m'entendez un peu chanter au début, juste assez.
Ouais, c'est le moment qui me casse le plus les oreilles.
Yes. Fait que merci à tous pour tout le monde pour les commanditaires. C'est très apprécié. C'est une grosse saison qui arrive. Puis on peut commencer, je pense, tout de suite la deuxième mise au jeu de la saison.
Yes.
Si t'es un entrepreneur et que tu souhaites avoir un site web performant, moderne, sans avoir à payer de tarif de 25%, chez Innove Agence, on conçoit des sites web de A à Z, une solution clé en main pour votre entreprise.
Si tu es un gamer et que ton ordinateur est lent, ici, chez Innove Agence, on crée des ordinateurs performants et durables. Visitez notre site web innoveagence.com ou appelez-nous au 418-551-4393. 418-551-4393.
au jeu.
Bonjour Marc-Olivier.
Hey, salut les boys, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Yes, merci.
Merci encore d'accepter l'invitation. Je pense que je t'ai averti vers 1 heure ou 2. Là, fait que...
Ah oui, aucun problème, ça me fait bien plaisir d'être là.
Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il vous plaît?
Yes, ben mon nom c'est Marc-Olivier Sanson, je suis l'entraîneur-chef des Grenadiers là, dans le niveau M18-3A. J'en suis présentement à ma troisième saison là, comme entraîneur-chef. J'ai été auparavant 5 ans comme assistant coach avec Éric Lecomte. Mm-hmm. Avant ça, j'ai été 4 ans comme au niveau M17-3A, qui est anciennement le Midget Espoir dans notre région. Puis avant ça, ben, j'étais joueur. Là. J'ai joué jusqu'à 20 ans, dans le fond, là, junior 3A. Donc, c'est un petit peu ça, mon parcours, background hockey. Là. On en parlera plus approfondi dans l'entrevue. Là.
Yes.
Parfait. Yes, direct comme ça. Fait qu'on va passer tout de suite au premier segment ensemble, Autour du filet.
Ce segment d'Autour du filet est une présentation de Boutin Performance. Si l'entretien de votre véhicule vous tient à cœur, en Abitibi, c'est le garage où aller. 1150 rue de l'Escale pour ce qui est de Val-d'Or, le meilleur garage. Bon segment.
Ah, je sais pas où on a mis l'ancienne vidéo, Seb.
Ouais, j'ai vu un bout de l'ancienne vidéo. Je pense qu'il va falloir que je modifie un peu ça. Là.
Ok. Fait que tu l'as dit, tu as été joueur. Maintenant, avec tes yeux de coach, comment tu décrirais le Marc-Olivier joueur?
Le Marc-Olivier joueur, j'ai compris bien des affaires quand j'ai commencé à coacher. J'étais un joueur qui était axé strictement sur l'offensive, qui comprenait pas nécessairement le pourquoi de mettre les efforts défensivement. Par contre, depuis que je coach, j'aurais peut-être aimé ça, avoir ces connaissances-là quand j'ai eu la chance de jouer. Peut-être que j'aurais eu la chance de jouer un peu plus longtemps. Là.
C'est toi qui t'a donné la piqûre un peu d'être coach si tu voulais voir l'envers de la médaille? Ou...
J'ai un petit frère, moi, qui a joué junior majeur professionnel il y a 3 ans de moins que moi. Donc, mes parents, ils nous apportaient tout le temps à l'aréna ensemble. Donc, j'ai tout le temps eu la chance de pouvoir embarquer sur la glace là, durant ces pratiques, aller aider les coachs tant qu'à regarder les pratiques des estrades. Après ça, ben j'ai joué, comme je vous ai dit tantôt, là, de 17 à 20 ans, junior 3A. Au travers de ça, j'ai eu un camp avec les Cataractes de Shawinigan l'année de la Coupe Memorial. Mm-hmm. Après, pendant mon année 20 ans, je me posais la question, tu sais, le hockey, c'est quand même toute notre vie là, quand on est jeune et qu'on est là-dedans. Donc, je me demandais, moi, comment que je pouvais... continue de m'impliquer dans le hockey. À ce moment-là, je travaillais dans la construction là, avec mon oncle et mon père. Donc, ils ont pu m'arranger un horaire là, pour que je puisse rentrer avec le programme des Grenadiers là, à 21 ans comme assistant coach au M17-3. Donc, je me présentais à 2 pratiques par semaine et à tous les matchs. Donc, c'est là un peu que j'ai pris la piqûre et que j'ai vu un peu... le temps que tu y mettais avec les jeunes, puis les efforts que les jeunes faisaient en retour, c'est très gratifiant là, comme du côté personnel. Donc oui, j'ai eu la piqûre assez tôt. Là.
Comment c'est arrivé l'opportunité de coacher, comme tu as dit, à 21 ans, je ne me trompe pas, avec les Grenadiers du Lac Saint-Louis Espoir?
Yes, ben, dans le fond, c'était un de mes amis qui avait l'équipe en chef.
Okay.
Il cherchait un assistant coach, donc il m'en a parlé. Mon frère, il avait joué M18-3 l'année d'avant, donc je connaissais pas mal les joueurs, le programme des Grenadiers, donc j'ai sauté là-dedans à pieds joints. Puis aujourd'hui, je ne le regarde pas.
Ça, pour devenir entraîneur, ça prend un cours? C'est quoi ça prend exactement, des connexions?
Non, ça prend un cours HP1, haute performance. Dans le fond, les premières années, là, j'ai eu une exemption. Dans le fond, je coachais à condition que j'aille suivre mon cours. Donc, quand j'ai vu que j'avais vraiment la passion, ben, je suis allé suivre mon cours. C'est quand même un cours assez assidu. Là. Tu dois planifier une semaine au complet à aller suivre des conférences. Moi, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, si je ne me trompe pas. C'est très, très le fun cette semaine-là avec des entraîneurs de la Ligue nationale, du junior majeur. Tu côtoies d'autres coachs avec qui, des gars avec qui j'ai joué. Qui était là. Donc, ça a été une super belle semaine. Par après, par exemple, quand tu t'en retournes chez vous avec tes genres de devoirs à faire, ta planif annuelle puis toutes ces choses-là, c'est quand même, ça a l'air d'une montagne. Sauf que quand que tu passes au travers chaque chapitre, ben tu comprends que aujourd'hui je fais le cours sans le faire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au début, ça avait l'air d'une montagne. Maintenant, c'est une planification annuelle. Je la travaille. Là. Après 12 ans dans le coaching, je veux dire, je suis capable de travailler certaines choses. Donc, non, il y a un cours HP1. C'est quelque chose quand même.
Parfait. Après, par la suite, assistant coach avec les Grenadiers de Châteauguay, ça a été quoi ton plus gros défi selon toi?
Au début, c'était probablement l'âge. J'ai eu le poste, j'avais 24 ans. Donc, okay. J'avais des joueurs de 17-18 ans, là, 17 ans, puis qui avaient 18 ans dans l'année. C'était d'être capable d'avoir une proximité avec eux pour qu'ils me fassent assez confiance, mais d'avoir aussi de la pogne pour être capable de les gérer. Donc, ça a été ça un peu mon défi au début. Par contre... au niveau M18-3, là, les joueurs sont très professionnels. Ils veulent être coachés. Ils veulent apprendre. Donc, ils ont été très professionnels là-dedans. J'ai pas vraiment eu de problématiques ou quoi que ce soit. Là.
Parfait. On a une question du public. Marc-Olivier, est-ce que tu aimerais coacher dans la LHMQ? On peut un peu douter de la réponse. Mais j'aimerais continuer dans le sens de comment un coach peut évoluer et graduer vers la plus grande ligue.
Je vais répondre à la première. C'est sûr que j'aimerais ça coacher dans la LHGMQ éventuellement. Par contre, en ce moment, j'ai une situation familiale avec... j'ai 4 jeunes enfants. J'ai un enfant de 5 ans, un petit gars de 5 ans, une petite fille de 4, une petite fille de 2, puis une autre petite fille de 10 mois, voire bientôt 11. Donc, je me trouve en ce moment très, très chanceux de faire du hockey là, dans ma région, dans ma ville, avec toute l'aide que mes proches ils peuvent m'apporter. Ma blonde est là, elle me supporte là-dedans. Je me vois mal partir en ce moment tout seul pour vivre mon rêve ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est sûr que je suis à l'écoute, j'attends la bonne opportunité, puis si ça la donne, c'est sûr et certain que je vais y aller. Deuxième temps, pour comment un coach peut faire pour y aller. Tu sais, j'applique pas, là. Je suis honnête avec toi, je suis pas en train d'envoyer mon CV à toutes les semaines au GM ou quelque chose comme ça. Par contre, depuis maintenant 5 ans, je fais partie des entraîneurs à Équipe Québec. Je me promène avec les M15, les M16, je me fais des nouveaux contacts. J'étais d'ailleurs avec Arnaud Dubé là, au Déforeur dernièrement. Donc, en se faisant des contacts, des fois, ces gars-là, ils ont des jobs en chef après, ils veulent t'avoir comme adjoint ou des gars avec qui, contre qui t'as coaché, que t'as des affinités. Donc, c'est un peu en se faisant un réseau de contacts, selon moi, là, que t'as la chance après d'avoir une opportunité de monter.
Okay. En parlant un peu tout de suite d'Arnaud Dubé, l'assistant coach des Foreurs, il est arrivé à sa première saison l'année passée. C'est-tu là que tu as appris un peu à le connaître? Tu devais le connaître un peu dans la ligue avant?
Ben, moi et Arnaud, on a coaché contre là, pendant 5 ans, pratiquement, là, dans le Ninja 3. Donc, au travers de ça, les étés, on se croisait à Hockey Québec. Donc, quand tu croises quelqu'un à Hockey Québec, ben, quand j'allais à Jonquière, c'était tout le temps un petit texto. On allait jaser, on se disait bonjour. Puis, ben, d'échanger hockey avec ces coachs-là dans l'été, t'apprends aussi d'autres façons de faire, comment eux, ils apportent leurs choses. Puis, souvent, ça coordonne avec les succès que leur équipe ont parce que chaque équipe a sa part de succès. Quand j'affronte, cette année, c'est un petit peu dur pour moi de répondre à ça. Je vais te dire, quand j'affronte le Collège Charlemagne, parce que je les ai joués, je le sais très bien qu'ils ont un très bon système offensif, ils ont des bons skills, ils sont très bien rodés. Donc, quand que je vois Hockey Québec, que je travaille avec Oli La Tendresse, ben c'est sûr que je suis attentif quand même à ces petits détails-là pour essayer de m'améliorer, moi, comme coach. Puis quand que je vais travailler avec Sam Collard de Magog, je sais que c'est un coach très intense, que ses équipes sont physiques, sont structurées. Ben j'essaie de voir qu'est-ce qu'il fait lui aussi pour être capable d'amener chaque ingrédient à ma sauce pour pouvoir m'améliorer comme entraîneur là, à chaque saison.
Pour aller vite fait, là, 5 petites secondes dans le croustillant, là, ça existe-tu des chirps entre coach? Après, on s'en va se donner la main et tout est fait.
Tu passes à la glace dans le feu de l'émotion.
Moi, ouais, exact. Ouais, de banc à banc, là.
Ben, tu sais, moi, je suis un gars très, très intense. Dans un match de hockey, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire. Sauf qu'après ça, tu sais, on a tous chacun notre situation, puis c'est rien de personnel. Là. Autant pour avoir joué, sur la glace, il y a des choses qui arrivent que c'est pas nécessairement la vraie vie. Fait que c'est important de garder un respect, mais c'est sûr que des fois, avec les émotions, on s'emporte. C'est important après ça, par exemple, d'envoyer un petit texto puis de jaser rapidement pour passer à d'autres choses.
selon Elite Prospect, tu as été assistant coach pour 5 équipes en 21-22. Comment que ça...
Écoute, avec le programme hockey des Grenadiers, là, on a 10 équipes. Moi, en étant en 21-22, je pense que j'étais assistant coach au MDU3A. C'est pas des jobs à temps plein. Donc, moi, pour être capable de faire ça à temps plein, ben, je m'impliquais dans le plus d'équipes que je pouvais, avec le plus de temps que je pouvais. Donc, c'est peut-être là que j'ai apparu sur une coupe de line-up là, où c'est que je m'impliquais beaucoup avec eux autres. Là.
OK.
Parfait. En 23-24, head coach dans le M17-3A. Comment tu as eu l'appel? C'était quoi ta réaction quand tu as eu le poste?
En 23-24, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est fait éliminer au M18. J'étais déjà coach en chef au M18-3. Là. Je ne sais pas pourquoi Elite Prospect. J'étais déjà en chef au M18-3.
Okay.
Il est arrivé que l'entraîneur du M17-3 il a dû quitter ses fonctions là, pour un emploi. Donc, ils se sont retrouvés avec le dernier mois et demi où il n'y avait pas de coach. Puis, vu que moi, j'étais éliminé, je vais aller finir l'année. Fait que ça a été un beau camp d'entraînement pour les jeunes, là, où ils ont pu voir c'était quoi. Je suis allé avec mon adjoint Fabien aussi. Là. On a passé le dernier mois et demi avec eux. On les a fait progresser énormément. Puis, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis allé au M17-3 en 23-24.
Parfait.
Avec ta nomination comme coach, comment tu l'as appris? Puis, c'était quoi tes défis en commençant dans le M18-3?
Comment que je l'ai appris? Ben, c'est un petit peu spécial parce que moi, je cherchais à progresser à ce moment-là. Là. Après 5 saisons comme assistant coach au niveau M23, j'étais super bien à Châteauguay. J'étais avec Éric Lecomte qui me faisait extrêmement confiance. Il me laissait de la place. J'étais super bien, sauf que je sentais que j'étais en train de... fallait que j'essaie d'autres choses. Puis je voulais pas nécessairement le faire loin de chez nous. Éric, quand il a vu que je cherchais d'autres opportunités puis que j'essayais de voir où est-ce que je pouvais aller ailleurs, il m'a dit inquiète-toi pas, Moss, le monde m'appelle Moss, c'est mes initiales. Là. Il m'a dit inquiète-toi pas, Moss, je finis cette année puis je m'en vais. T'sais. Fait que là, je suis comme OK, mais ça veut pas dire que c'est moi qui vais avoir la job. Genre, c'est pas toi qui décide. Fait que cette journée-là, il y a eu une discussion, lui, dans le privé là, avec notre gouverneur Benoît Perron, notre président Michel Parent. Il a annoncé qu'il quittait à la fin de la saison. Puis la soirée même, là, j'ai eu un appel chez nous. Puis honnêtement, mes dirigeants, ils sont très respectueux. Là. C'est rare qu'ils m'appellent à 7-8 heures le soir. Là. Ils savent que j'ai une jeune famille. Donc, quand j'ai eu l'appel, je me demandais bien c'était quoi. Puis il m'a juste dit, écoute-moi, si on va l'annoncer à la fin de l'année, on ne veut pas tout chambouler l'année qu'on a en ce moment avec les gars. C'était en février environ. Là. Il m'a dit, mais il n'y aura pas de processus d'entrevue, il n'y aura pas rien. Là. On a extrêmement confiance en toi. Si tu veux la job, elle va être à toi. T'sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que je l'ai su. Puis ça a fait une belle transition aussi là, avec Éric qui est parti quand même doucement. On a pu échanger sur les façons de faire, mais on faisait déjà tout à deux. Donc c'est ça. Mon plus gros ajustement a surtout été côté paperasse. Je ne sais pas si vous le savez, mais un coach Média 3, c'est pas juste un coach. Je veux dire, moi, je réserve les autobus, je m'occupe des repas sur la route, je book les hôtels. Les activités d'équipe, je fais un peu de tout là-dedans. Là. C'est moi qui fais les relevés de carte de crédit, des dépenses avec le propriétaire. Donc, il y a beaucoup de temps que j'avais à consacrer qui n'était pas au hockey au début, qui venait nous gruger un petit peu d'énergie. Par contre, c'est devenu une routine là, où je fais ça le lundi matin, puis le restant du temps, je fais du hockey, mais au moins, ça me permet de sortir de ma zone de confort puis de voir d'autres choses. Là.
Ça ressemble à quoi les repas sur la route pour les joueurs M18-3?
On est très chanceux. Là. Je vous dis que c'est moi qui s'en occupe, là, mais c'est mon statisticien David Boisclair. Là, il prend soin de donner 3 choix là, à chaque joueur pour les repas. Donc, il y a un Google Form qui est envoyé. Les gars, ils ont le choix. Là, on finit une game à Magog. Ben, ils ont lasagne, ils ont club sandwich, ils ont corps de poulet. On veut s'assurer, la raison pourquoi on donne trois choix, c'est que quand moi je jouais, ben il y en avait 4-5 dans l'équipe qui mangeaient pas ça, de la sauce à spaghetti, puis c'était comme, ben mange, qu'est-ce que t'as, puis on s'en fout. J'ai déjà vécu quelque chose aussi comme joueur, que en tout cas, on mangeait pas tout le temps ce qu'on voulait, donc pour le même prix, je trouve que c'est important de donner aux joueurs, on veut qu'ils s'alimentent bien, on veut qu'ils se préparent adéquatement, donc pour le même prix, j'aime mieux donner du choix aux joueurs là, pour qu'ils puissent performer par après, là.
Parfait. Petite question du public encore. Autre les Canadiens, étant donné que c'est notre seule équipe québécoise, dans les LNH, quelle équipe aimerais-tu le plus coacher?
Je vais dire l'Avalanche Colorado. Mm-hmm. En ce moment, ils ont quand même un beau mix de joueurs là, qui sont capables d'amener de l'offensive de la ligne bleue. Puis ça vient un peu de partout, c'est le fun. Mais je vais vous dire surtout parce que en grandissant, mon joueur préféré, c'était Joe Sakic. Fait que l'Avalanche Colorado a tout le temps été une de mes équipes favorites. Puis là, ça fit avec le fait qu'ils sont des meilleures équipes de la Ligue nationale année après année.
En même temps, Jared Bednar, pas certain qu'il s'en va dans les prochaines années.
Effectivement.
Hey Seb, je vais te laisser à la prochaine.
Excuse, je me suis perdu un peu la minute, là. Ça commence déjà.
Ben, j'ai perdu la demi-finale d'association face à Magog. Plusieurs ont encore de la misère avec le portrait des séries assez spécial dans le M18-3A. D'un point de vue de coach, comment on gère ça? Comment tu peux le...
C'est contre Saint-Hyacinthe, dans le fond, qu'on a été éliminé cette année-là. C'est assez spécial, le format des séries. Je comprends le pourquoi que la Ligue le font. Mm-hmm. Mais j'aimerais beaucoup qu'on sorte de nos divisions, qu'on aille jouer contre d'autres équipes. Là. On les voit déjà 5 fois par année, en plus de les voir dans les séries. Puis c'est des courtes séries. Dans le fond, on a commencé, là, nous, on a fini en 4e position de notre division. Donc, on a joué contre la 5e, qui était les Lions du Lac-Saint-Louis. Mm-hmm. On les a battus en 2. On a gagné, je pense, 6-2 puis 8-2, ces deux games-là. Ah bon. Après ça, on a passé au Collège Charlemagne. Comme je vous disais, c'est une belle rivalité. C'est une équipe axée sur l'offensive, tout ça. Mm-hmm. On a perdu 3-2 chez eux, qui a été un excellent match. Ils sont revenus chez nous. Ils menaient 6-1 après 2 périodes. On a monté ça à 6-6. Il restait 3 minutes à la game. Ah bon. Ils ont réussi à scorer un but en fin de match pour nous éliminer. Mais comme coach, des séries à 10 minutes de chez nous, j'aurais pris un 4-7 de ça, moi, là. Je veux dire, on était 2 games où on était dedans, que c'était intense, c'était hard. J'aimais comment est-ce que mon équipe jouait malgré les défaites. J'aurais aimé ça avoir un 4-7, puis de voir où est-ce qu'on aurait pu aller, puis j'aurais aimé ça que les gars aient pu vivre ça. Ouais. Donc, à partir de là, on a été éliminés de la ronde en haut. On est descendu en bas, on a joué là, ils refont un classement dans le fond, là, il restait comme 8 équipes, c'était 1-8, 2-7, 3-6. On a joué contre Gatineau à la maison, on a gagné 5-1, c'était le mercredi soir. Puis le vendredi, là, on a eu quelques blessures, nous, pendant les séries. Là. On est allé jouer à Saint-Hyacinthe. On a manqué de jeu un petit peu, là. On a perdu 5-1, mais ça a été un très bon match contre Saint-Hyacinthe aussi. Là. J'étais bien fier de mes joueurs, mais je suis encore d'ailleurs.
Seb, va falloir envoyer un petit message d'ID Prospect et nous true à toi.
Ouais, c'est bon. Comme entraîneur en chef, c'est quoi au repêchage de la Q? T'as-tu un rôle un peu d'encadrer tes joueurs? C'est que t'es suivi un peu tout le long de la
journée? Repêchage de la Q, ben c'est sûr que moi, j'essaie de. Je suis un coach quand même très moderne. Je suis proche de mes joueurs. Je leur parle à tous les jours. C'est sûr et certain qu'ils ont tous maintenant des agents, des advisors, du monde qui s'occupe de eux. Mm-hmm. Par contre, moi, j'ai la chance de parler aux directeurs généraux, aux head scouts des équipes juniors qui nous appellent pour avoir leur pouls. Moi, j'ai tout le temps pour dire que je dis la vérité à mes joueurs. Tu sais, des fois, ils sont listés en 3e ronde, puis moi, je pense qu'ils vont sortir un petit peu plus loin. Ben, je laisse savoir parce que les attentes, c'est dur à gérer, puis ils n'ont pas le droit d'être déçus pour moi la journée du draft s'ils sont repêchés. Donc, c'est sûr et certain que j'ai les attentes. Mais oui, je les prépare à des entrevues juniors où c'est quand même intimidant là, pour un jeune de 15 ans aller s'asseoir à une table où il y a 2-3 gars scouts des équipes juniors, des fois des hauts dirigeants, puis aller jaser. Par contre, c'est tout du bon monde. Là. Il n'y en a pas que je peux dire que hey, c'est tough, ils essayent de pogner les jeunes ou quoi que ce soit. C'est tout du bon monde. Ils font tout ça pour les bonnes raisons. Puis la raison pourquoi ils rencontrent les jeunes, c'est pour apprendre à les connaître. Fait que moi, je leur dis souvent d'être eux-mêmes. C'est, s'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire dans ce que tu vas leur dire, ben c'est toi-même. Fait que compte-leur pas de mentir pour être repêché, parce qu'ils vont la découvrir un moment donné, ta mentir, puis ça va jouer contre toi. Fait que sois toi-même, dis-leur qu'est-ce que tu penses, puis tu vas t'en sortir avec du positif. Là.
Parfait. Le M18-3A, une excellente ligue de développement. La nouvelle règle avec le junior NCAA, est-ce que ça a quelque chose à voir avec vous avant la règle et même maintenant après ou absolument pas?
Ben, je vais te dire, l'an passé, j'ai vécu quoi de spécial? Là? Justement, en Abitibi, pour les Huskies, on a un de nos défenseurs qui a fait l'équipe, là, Tristan Langlois. Okay. Je ne sais pas si à 6 pieds 7. Là.
Ouais.
Grand défenseur physique. Ben, l'an passé, lui, il avait déjà commit avec Clarkson.
Okay.
Donc, il avait pris la décision de ne pas se présenter à Moncton à son camp junior parce que c'était les règlements. Il s'est envenu chez nous directement. Il a joué une saison 17 ans avec nous. Je pense que si la règle aurait été différente en début de saison, il aurait probablement débuté là, avec dans le junior majeur. Ça n'aurait pas été avec Moncton, ça aurait été avec une autre équipe. Mm-hmm. Mais le fait de venir jouer avec nous, il a joué des grosses minutes. Il a été un assistant capitaine. Il a pu vivre un petit peu toutes sortes de situations avec nous. Il a fini malheureusement avec une blessure où il s'est fait opérer là, au genou pendant nos séries éliminatoires. Il y a eu une belle rehab cet été. Je suis très content de voir ce qu'il fait en ce moment avec les Huskies. Mais pour la NCAA, selon moi, si ça aurait passé avant, on ne l'aurait pas eu, Tristan. Fait que, selon moi, à partir de cette année, des joueurs récalcitrants, ils ne devraient pas en avoir au junior majeur. Ils devraient se présenter dans leur équipe parce que c'est la meilleure ligue pour jouer avant d'aller jouer là-bas. Donc, ils ne devraient pas avoir nécessairement de joueurs qui restent au Midget 3A pour but de rester dans le niveau NCAA, là, dans la branche de la NCAA.
OK.
Cette saison, la nomination du capitaine Olivier Charron, pensais-tu le revoir? Je pense que non.
Ma réponse est non. Là. Je ne m'attendais vraiment pas à le revoir. Tu sais, oui, Oli, il a eu une super belle saison l'an passé. Il y a eu des ups, il y a eu des downs, comme toutes les 15 ans, puis c'est très, très normal. Il est sorti d'une super belle organisation qui prennent soin de leurs joueurs. Cap-Breton, il ne pensait pas qu'il était d'une position où il pouvait le jouer à sa juste valeur tous les soirs. Puis justement, parce qu'il l'aime beaucoup, ils ont décidé de l'envoyer au niveau M18-3A pour qu'il continue de se développer, qu'il vive d'autres choses. Puis là, oui, de le nommer capitaine, de l'amener avec nous comme capitaine, c'est une nouvelle chaise pour lui. Puis juste avec l'ovation qu'il y a eu de nos partisans puis de nos joueurs du programme, je pense à crier pendant 5 minutes dans l'aréna quand il a été nommé. C'est des frissons que j'ai encore en vous parlant aujourd'hui parce que je suis fier pour lui. Puis je suis content, il mérite tout ça. Mais je suis convaincu que lui aussi, là, c'est des beaux moments qu'il n'aurait pas pu vivre s'il aurait resté au Cap-Breton cette année.
Surtout sortir au Cap-Breton avec son frère aussi qui a été repêché là, ça doit être un moment spécial pour la famille.
Sûr et certain, c'est tellement une bonne famille, honnêtement. Là. Écoute, Hugo, je l'ai dans mes équipes d'été depuis qu'il est à Tombe. J'ai connu la famille. Ils m'ont tout le temps fait confiance. Ils ont tout le temps embarqué dans ce qu'on a fait. Oli, juste pour vous donner une idée, il n'avait même pas encore averti ses parents qui étaient coupés au Cap-Breton et qui m'avaient appelé. Là.
OK.
C'était direct. Il était déçu, mais il avait hâte de faire son 17 heures d'auto et de revenir. Donc, non, c'est une super bonne famille. C'est le fun de voir les deux frères être à la même place. Hugo, cette année, va pouvoir vivre un petit peu les moments avec le Cap-Breton, tout ça, pour pouvoir guider Oli l'an prochain ou à Noël. Là, on ne sait pas, ça va être bien, mais c'est ça. Fait que non, c'est des beaux moments pour la famille Charron, mais je vais être honnête, pour toute notre organisation aussi, là, ça nous rend très fiers de voir ça progresser au prochain niveau.
Justement, vous fêtez vos 20 ans, tu as un chandail ou une veste là, avec le logo des 20 ans.
Oui. Ben, écoute, c'est spécial, nos 20 ans, là, je vais t'expliquer un petit peu le parcours. Là. L'équipe est arrivée en 2005-2006 à Châteauguay. À ce moment-là, je jouais Pee Wee Dura, moi, pour l'Express du Savoie. J'étais un partisan de l'équipe. J'allais voir les matchs. Nos matchs étaient après, avant eux. On était tout le temps à l'aréna. Par après, quand je suis arrivé dans mes années Midget 3, malheureusement, j'ai été retranché à chaque fois que j'ai essayé de faire l'équipe. Mon année 15 ans, j'ai joué Midget Espoir. Mon année 16 ans, j'ai été au, au M, c'était Midget de Raw dans le temps. Là. Il n'y avait pas joué scolaire ou de quoi de même. Puis après, j'ai été joué junior 3. Mais mes trois années Midget, on peut dire que c'était mon âge, si tu veux. Là. Fait qu'il y a eu la phase partisan. Il y a eu la phase que c'était mes amis. Puis après que j'ai sorti du Midget, c'est mon frère qui est rentré Midget. Puis il a joué 3 ans à Midget 3 pour les Grenadiers. Donc, de me présenter à l'aréna, évidemment, le plus grand partisan de mon frère, c'était moi. Je manquais pas un match. T'es sûr que je pouvais être là, j'étais là, j'allais l'encourager. Donc, dès qu'il est sorti de son Midget 3A, j'ai commencé à coacher au niveau Midget Espoir. Fait que je te dirais, sur les 20 ans, là, j'ai à peu près une connaissance de 16-17 ans très, très bien là, de l'organisation. Je suis en ce moment très fier, très honoré d'être le coach des Grenadiers, surtout pour la 20e saison.
Continuant sur cette fierté, comment tu nous présenterais la formation que tu as sous la main cette saison?
Écoute, j'ai 12 vétérans. Pour un coach, c'est très, très rassurant d'avoir des gars qui reviennent. Surtout l'an passé, là, on a eu quand même une belle saison, malgré le fait qu'on s'est fait éliminer un petit peu plus tôt que j'aurais espéré dans les séries. Là. On a quand même eu une belle saison. Ces gars-là, ils ont adhéré à ce qu'on a fait. Donc, cette année, ils reviennent avec la même intention, mais avec du vécu, par exemple. Parce qu'eux aussi, ils ont été déçus, puis eux aussi, ils veulent pas revivre les mêmes émotions. De greffer à ça quelques nouveaux joueurs, c'est très excitant comme coach là, de commencer une saison tout le temps. Là. Je le disais à mon adjoint la semaine passée, là, j'aime ça la première semaine moi, du match d'ouverture. Notre glace se fait, les photos d'équipe, les chandails, établir notre système de jeu, établir nos principes, nommer capitaine assistant. Je sais comme joueur à quel point c'était excitant. Comme entraîneur, ça l'est tout autant. Donc, très fier de l'édition qu'on a cette année là, sous la main.
Parfait. Dernière question, après ça, on va te passer au jeu César du hockey. Tu as enseigné à plusieurs joueurs. C'est quoi les joueurs qui t'ont le plus surpris ou qui t'ont le plus marqué, excuse?
Ben, le premier que je vais vous nommer, c'est Zachary Lheureux. Zachary Lheureux, c'est assez spécial comme être humain. Là. Moi, j'ai eu la chance de le diriger au niveau Midget Espoir parce qu'il a joué à 14 ans. Donc, j'ai été son entraîneur-chef avec nous. C'est un gars avec tellement d'énergie, tellement de grit. À un moment donné, tu as une laisse quasiment là, pour le retenir. Mais c'est le genre de joueur que quand tu as mis tes cadres et qu'il te respecte, il va te donner la lune. Donc, après, je l'ai eu... À notre année, M18-3A, t'as donné une idée. On jouait un match, je pense, c'était contre Charlemagne. Il dormait, il était pas là pantoute. On perdait 2-1, il restait 3 minutes, puis il s'est fait geler. Puis tout le banc de CCL s'est levé, ça tapait sa bande. Il est arrivé au banc, puis il m'a regardé, puis moi, j'étais adjoint dans ce temps-là, puis il dit, « Moi, ça se tique, ils sont caves. » Je le regarde, je dis, « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Je dormais, j'étais pas là, là. » Il dit, « Remettez-moi sur la glace. » Il est allé sur la glace. Il a scoré, on est allé en overtime, il a scoré, on a gagné la game, puis c'était le genre de caractère que Zachary pouvait avoir. Par la suite, j'ai dirigé un certain Alec Reed aussi, qui est assez spécial. Là. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Alec, il est décédé. Là, il y a
ouais, décédé. Ouais, c'est vrai.
Je l'ai dirigé au niveau M17-3A pour l'avoir suivi après un petit peu au M18. C'est un joueur de caractère. Moi, c'est un petit peu ça qui me fascine. Les joueurs qui abandonnent jamais, qui travaillent, qui ont un but en tête et qui veulent y atteindre. Puis, tu sais, des fois, on est aussi fiers de Zachary Lheureux parce que c'est mon premier joueur que j'ai réellement coaché, qui joue dans la Ligue nationale. Puis aujourd'hui, juste vous donner une anecdote avec Zach, il s'entraîne à l'aréna à Châteauguay. À tous les jours, quasiment, il vient me voir puis il vient parler pour jouer au hockey avec mon gars qui est à l'aréna. Cet été, j'ai eu besoin de faire garder mon chien parce que j'allais à l'équipe Québec. Ma blonde était en vacances à Rimouski avec les enfants. Zach a gardé mon chien. C'est le genre de relation qu'on a. Puis on est vraiment chanceux de l'avoir, l'organisation alentour. Mais on est aussi fiers de... j'ai pas de nom qui me vient en tête immédiatement, là, mais de nos joueurs qui graduent à l'université, qui sont maintenant des médecins ou qui ont des formations. Nous, c'est tout le temps le fun là, de voir nos joueurs réussir. Puis ça arrive souvent avec les valeurs qu'on leur incarne là, au M18-3.
Si je ne me trompe pas, vas-y, Zach.
Ben moi, j'allais repartir sur Zachary Lheureux. Comme vous avez l'air d'avoir une bonne relation, tu sais. Cet été, as-tu des cues de comment ça va pour lui? Nashville, c'est une belle ville, comment ça va, puis tout?
Ben, écoute, j'ai pas de cue par rapport à la Ligue nationale. Je peux juste te dire que Zach, il a eu un été où il a été au gym 7 jours semaine. Il était sur la glace. Il était heureux. Il s'en va à Nashville très cranky. Puis il est très, très fier d'être avec les Prédateurs. Puis il oublie pas de où il vient. Puis c'est très le fun.
Parfait. Il y a aussi Nathan Lecomte qui me vient en tête. Je pense que tu étais son assistant coach, je me trompe. Ben, c'est son père qui était coach.
Ouais, ben dans le fond, Nathan, quand j'ai commencé à coacher avec Eric, il était Pee-wee.
OK.
Tu sais, Nathan, je l'ai vu grandir, là. Tous les niveaux. J'allais, quand je vous disais tantôt, qu'il était de prospect, j'étais sur toutes les line-up. Ben, Nathan, il faisait partie de ça, parce que j'allais m'impliquer avec ses équipes. À 14 ans, certains, là, il a joué avec nous. Il a eu un impact immédiat. J'avais la chance de m'occuper de l'avantage numérique à son année 14 ans et 15 ans aussi. Là, je me suis tout occupé de l'avantage numérique, mais j'avais un Poirier qui était shooter, j'avais un Lecomte qui était capable de distribuer la rondelle. C'était très impressionnant ce qu'il était capable de faire à 14 ans. La question sur toutes les lèvres était est-ce qu'il va le refaire à 15? Est-ce qu'il va être capable de le faire? Il l'a très bien fait à 15 ans. Puis Nathan, ben, sa plus grande force pour moi, c'est sa force de caractère. T'sais, là, il s'en va dans un camp avec les Devils du New Jersey. Je suis très fier de lui. Je suis très fier de la personne qu'il est. Puis il est beau à voir aller. Je suis convaincu qu'il va avoir beaucoup de succès là, dans le futur.
Oui, ça, c'est sûr. Fait que là, c'est notre deuxième épisode, mais c'est la première fois que Julie vient. Fait que, on va être prêt pour le jeu de César du hockey. On te revoit après.
Yes.
Le jeu de César du hockey.
Bonsoir tout le monde, bon début de saison de sur la bande et du jeu César du hockey, comme Sébastien vient de dire, c'est ma première fois cette saison. Merci Marc-Olivier d'être présent avec nous ce soir et surtout, ben justement, je pense que c'est comme il l'a dit Seb au début, c'est comme vers 15h qu'on a su que tu pouvais te joindre à nous, fait que encore plus, un grand merci de venir nous sauver, entre guillemets.
Ouais, aucun problème, c'est super le fun, vous êtes une belle gang.
Ben, merci beaucoup, puis je veux juste dire aussi, là, juste le fait, là, bon, la température descend un peu, le soleil se couche plus tôt, mais juste être de retour sur le podcast, c'est comme le sentiment que le hockey est de retour officiellement. C'est un extrêmement bon feeling. Puis justement, je veux commencer directement parce que là, l'autre fois, j'arrive pour une game très tard de Beer League, puis il y a un camp de Midget 2A juste avant ma game. Puis là, tantôt, quand j'ai su qu'on allait parler, je me suis dit, mais là, avant le camp Midget 2A, il y a le camp Midget 3A. Mais avant le camp Midget 3A, il y a le camp LHGMQ. Puis je voulais un peu voir comment tu t'adaptes. Là, on a parlé de Charon. T'as aussi Camden Jackson qui a été repêché haut. Comment on s'adapte à justement un peu l'improbable ou le non, comment dire, l'inconnu. C'est ça le bon mot, l'inconnu.
M'a dit qu'on s'adapte. Parce que le camp, dans le fond, là, comment ça fonctionne, nous autres, notre camp, il commence le 5 août. Ouais. Donc, puis les camps juniors majeurs commencent aux alentours du 15.
OK, 14, fait que c'est après.
Donc, c'est pendant notre camp, dans le plein milieu de notre camp, nos joueurs partent. Donc, je te dirais que c'est très, très demandant là, pour les coachs. Là. Moi, la première semaine, dans le fond, j'ai un groupe blanc, un groupe bleu, puis les gars LHGMQ. Donc, je te dirais que j'ai 3 pratiques le matin, j'ai un match intra-équipe le soir. On est à l'aréna à 7h le matin, on part à minuit, 1h du matin parce qu'il faut discuter. C'est un très, très, très long camp d'entraînement. Quand les gars ils partent aux juniors, ben là, c'est un petit peu, tu sais, cette année, j'en avais 12, 13 qui étaient partis juniors. Okay. Je veux dire, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup dans mon équipe. Donc, c'est sûr et certain que moi, j'ai un lien quand même avec les équipes juniors, donc... on les laisse partir, on leur souhaite bonne chance. Je les achale pas non plus, là, ça me tente pas pantoute qu'ils pensent que je suis fatiguant et que je veux juste avoir mes joueurs. Par contre, on est très chanceux, là, les équipes juniors, ils comprennent notre réalité. Donc, ils nous parlent. T'sais, moi, je le sais à peu près quand les joueurs vont revenir. S'il est pour pas revenir, ben, ils me le disent, Marc-Olivier, il est d'une bataille, je ne sais pas si je vais te le retourner. Donc, nous, c'est de faire l'évaluation par rapport à qui ils vont garder, qui ils garderont pas. Puis là, ben, c'est ça qui est touché. T'sais. Moi, le camp, il a fini le 26 août. Mon match d'ouverture, il est le 4 septembre, 5 septembre. Je veux dire, ça prend des bandes de noms en arrière des chandails, ça prend du linge pour les joueurs, ça prend les noms dans la chambre. Quand je disais que je faisais plein de choses, mais tu sais, j'en ai fait plus que pas assez cette année. T'sais. J'ai fait faire des bandes de noms des 5-6 derniers que je savais pas s'il allait faire l'équipe ou non versus les gars juniors qui allaient revenir. Donc, non, c'est un très, très gros mot d'août. C'est de l'adaptation. Ça change de jour en jour. Des fois, il y a une équipe qui va dire hey, on te le retourne cette semaine. Puis là, ben quand il parle le samedi, il dit ouais, il fait vraiment bien ça. On va continuer de l'évaluer. Puis c'est correct. Mais nous, notre but, c'est juste qu'il fasse le junior. Puis on est bien contents s'ils le font. Mais s'ils le font, sauf que ça devient beaucoup d'adaptation pour nous, les coachs, au niveau M23.
Ben, j'imagine. Puis là, cette année, si je comprends bien, il n'y en a aucun qui sont pas revenus, en fait, là.
Écoute, j'ai les 17 ans, moi, dans le fond, qui ont fait. Oui. Hugo Charron, il a fait 4 retours. J'ai Tristan Langlois qui a fait Rouen Noranda, tu sais, mais aucun qui était potentiel, mettons, de revenir de 16 ans qui l'a fait.
Là, je sais pas si ça va couper, là. Je sais pas pourquoi. J'ai une drop de Wi-Fi. Fait que tant que tu me comprends, ça va bien. Yes. Aller. Je veux parler de Camden Jackson parce que là, bon, malheureusement, moi, je suis dans le coin de Montréal. Fait qu'avant, je pouvais voir le Rousseau Royal et donc voir l'entièreté du circuit. Là, maintenant, ils sont rendus à Laval. Donc, c'est comme peut-être un petit une heure de plus de transport. Donc, le M18 est vraiment plus difficile pour moi de suivre. Puis, je n'ai pas vu justement la saison passée vos joueurs, mais Camden, il a fait 5 points en 42 matchs. Puis je sais que les points, c'est peut-être clairement pas pourquoi il était pêché dans la Ligue junior majeure. Mais là, il est déjà à 3 points. Y a-t-il quelque chose que tu peux me dire sur qu'est-ce qui s'est passé avec ce joueur-là? C'est un choix de troisième tour là, quand même.
Ben écoute, Camden, c'est un grand défenseur, droitier, très bon défensivement, qui bouge bien la rondelle. Il est capable d'être physique. Il est capable d'être tough. C'est sa constance dans sa game qu'il a faite, je pense, qu'il est sorti en troisième ronde, parce que s'il joue sa game A souvent, je pense qu'il aurait sorti un petit peu avant ça.
Ah, oh, OK.
Il y a beaucoup de points positifs dans sa game. Ce qui fait qu'il a été invité, dans le fond, à l'équipe Canada. Il a fait les moins de 17 ans. Il est allé au moins de 17 ans au camp au mois de juillet. Ça lui a donné une méchante belle expérience, mais là, il a pu voir aussi c'était quoi le niveau, puis ça lui a donné une belle confiance. Mais après ça, il est allé à Moncton. Il a été là jusqu'à la dernière journée du camp. C'était leur premier choix. Tu sais, tu me dis que c'était un choix de troisième ronde, mais c'était leur premier pick de Moncton. Fait que, tu sais, ça, c'est tout le temps plus flatteur quand tu es le premier choix de l'équipe. Ils prennent soin de toi, ils te donnent de l'attention. Fait que, ils l'ont coaché. Puis, tu sais, je connais super bien Michael Tam, qui est rendu coach et défenseur là-bas. Donc, on a une super belle communication ensemble pour le développement de Camden. Puis là, Camden est revenu avec nous avec une belle confiance, une belle énergie, assistant capitaine. Puis, tu sais, ses points, moi, cette semaine, il y a 3 passes en 2 matchs. Il y a 10 mises en échec, puis il y a 12 block shots. Fait que, tu me parles de ces 3 passes, mais c'est venu ces 3 passes en bougeant la rondelle puis en étant extrêmement simple. C'est pas parce qu'il y a 3 passes qui étaient rendues à l'attaque en arrière du but de l'autre bord à faire son calme à cœur. Loin de là, il est resté dans son identité puis les points, ils sont venus. Donc, c'est sûr, certain que Camden, ça va être une pièce maîtresse pour nous cette année.
Ben c'est justement ça, c'est pour ça que je voulais le savoir, je voulais te demander, parce que je regarde sa carrure, son poids puis tout, je me dis ça va être tout un joueur cette année pour vous. Puis là, justement, tantôt, bon, on a parlé de Justin Poirier un peu, de Zachary Lheureux. Il y en a un autre que je m'intriguais, là, je veux dire, moi, je connais pas énormément ça, les gardiens de but, mais Mathis Langevin, c'est comme un peu sorti de sa coquille l'année passée. Les gens l'ont connu à la Memorial Cup, il était incroyable. Là, il vient de partir pour le camp de l'Avalanche, justement. Là, peut-être qu'à un moment donné, tu seras un coach invité pour Langevin. Mais je veux savoir un peu, là, moi, ça m'a étonné qu'il n'a pas été repêché cette année. Je m'attendais à ce qu'il soit repêché. Peut-être que ça va venir l'année prochaine ou qu'il y aura une signature, justement, avec l'Avalanche. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de ce goaler-là?
Ben, Mathis, nous, au niveau M23, là, il a été excellent. Il a eu 2 très bonnes saisons à 15 et à 16 ans. Il a partagé le filet même son année 16 ans avec Samuel Meloche, qui est goal à Rouen Noranda. On avait 2 très bons gardiens. Comme coach, quand tu ne te casses pas la tête avec tes goalers, c'est quand même le fun. Écoute, moi, j'étais quand même surpris qu'il ne fasse pas le junior à son année 17 ans. Là. Son année 17 ans où il a joué, il n'a pas joué un match avant Noël. Mm-hmm. Il était 3 goalers dans son organisation. Puis, pour moi, de ce que j'avais vu au Major 3, il en avait fait assez pour avoir une chance de pouvoir goaler. Par contre, Mathis, il n'a jamais abandonné. Il a été retranché à Noël. Il est allé jouer une demi-saison avec les Braves de Valleyfield dans le Junior 3A. Il a travaillé fort pour avoir une opportunité, dans le fond, à son année 18 ans. Puis encore plus pour les gardiens. Tu sais, tantôt, je le disais avec tes collègues, là, tu sais, d'être repêché, oui, c'est le fun, mais c'est où, puis comment, puis quelle opportunité que tu as devant toi. Donc, tu sais, l'an passé, quand il est allé, Batters, ils ont donné une opportunité au début de l'année où il a super bien fait. Puis, ben, l'Océanique de Rimouski qui est allé le chercher avec une blessure de William Lassell. Tu sais, les as se sont peut-être un petit peu alignés parce qu'il n'y aurait peut-être pas eu toute cette exposure-là si jamais William il est en santé. Donc, il a su rentrer par la porte dans l'avant puis de faire la job. Puis, c'est un gros bonhomme. Puis, en plus d'être un gros bonhomme, c'est un super bon gars. Il est très attachant, Mathis. C'est super le fun de le côtoyer. Fait que moi, son succès qu'il y a là, autant que le monde du hockey peuvent tout être surpris, ben moi, je suis pas surpris avec les opportunités qu'il y a eu, qu'il aille super bien fait ça, puis qu'il puisse avoir un camp au mois de septembre dans la Ligue nationale, et non juste le camp des recrues, tu sais, ils l'ont assez aimé pour l'amener au vrai camp au mois de septembre. Donc, je suis convaincu qu'il va super bien faire ça, qu'il va avoir une belle saison cette année à Rimouski, puis il va juste apprendre à être connu, là, Mathis.
Puis, il y a un autre sujet qui est quand même gros là, depuis, ben, ça va être la première année, mais le fait que les joueurs de la LHMQ puissent maintenant jouer dans la NCAA. Il y a Justin Poirier qui est peut-être un des principaux départs de la LHMQ. Tu l'as coaché. Puis, je veux savoir un peu, est-ce que tu sens, mettons, en discussion avec tes joueurs ou dans la direction que les joueurs vont, est-ce qu'il y a un changement? Parce que, bon, avant, on le sait, il y a des joueurs qui refusaient d'être repêché dans la GMQ, ou en tout cas, qui allait dire aux équipes, ben moi, je m'en vais du côté américain, puis ça serait ça.
Nous, à Châteauguay, on n'avait pas vraiment. Honnêtement, okay. Là, je te dirais, 99,9% de mes joueurs que j'ai eus dans les 8 dernières années, leur plan, c'était junior majeur.
Okay.
Par contre, je te mentirais si c'est pas une avenue que les jeunes, maintenant, ils regardent. Je pense que c'est une très, très belle opportunité pour les joueurs d'aller jouer universitaire après dans un si haut calibre de jeu qui peuvent être épiés par les équipes de la Ligue nationale encore plus longtemps. Par contre, je pense que les joueurs se doivent de faire ça après leur parcours junior majeur. Je pense que d'aller jouer, je me prononce pas. Là, tu sais, Justin Poirier, là, il était rendu là dans sa carrière, c'est son choix, c'est ses décisions, puis c'est bien correct, là. Mais il est allé jouer 3 ans junior majeur avant de faire ça. T'sais. Fait que c'est sûr que maintenant, les joueurs vont se présenter junior majeur, ils vont jouer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Puis c'est aux équipes avec les agents puis les joueurs de s'assurer des garder pour le plus longtemps possible. Puis après ça, ben je trouve que moi, à 19 ou à 20 ans, quand un joueur finit son parcours junior, ben c'est une super belle opportunité si tu es capable d'aller jouer universitaire. Ça fait que tu vas avoir joué devant des recruteurs de la Ligue nationale, dans le fond, peut-être de 16 à 20 ans, puis tu vas continuer de 20 à 24 versus à 20 ans, sinon c'est fini, pas fini, là, mais tu allais jouer dans notre ligue à nous au Canada, qui est excellente là, en passant, sauf qu'il n'y a pas de recruteur de la Ligue nationale à ces matchs-là.
Oui, puis c'est une courbe d'adversaire, ou en tout cas de niveau, qui se fait quand même très progressive. Après, si on pense au fait que les joueurs ils vont se faire signer, ils vont aller en AHL, moi, je trouve qu'il y a justement cette courbe naturelle qui peut vraiment améliorer la progression totale d'un joueur. Puis bon, en tant que coach, justement, tu parlais de stratégie, de système. Puis moi, j'en suis pas un coach. Puis j'ai des questions, j'ai juste 2 petites questions sur des tendances qui se font dans la Ligue nationale, puis à quel point peut-être ça se voit dans votre ligue, ou peut-être juste pouvoir m'expliquer. Fait que premièrement, je veux savoir un peu, puis toi, c'est quoi ton opinion sur le fait que maintenant, là, la plupart des power plays, c'est un défenseur. Tu sais, c'est quoi le... Je sais pas si toi, c'est ça que tu utilises, mais...
Ben, écoute, oui, un défenseur. Je te dirais qu'en ce moment, je suis dans le mode on développe. Là. J'ai 2 matchs de saison de jouer, fait que je te dirais que pas mal tout le monde dans mon équipe touche à l'avantage numérique. Mais dans les séries l'année passée, je vais te dire que j'avais un avantage numérique à 5 attaquants.
OK.
Ça dépend qui est capable de faire la job où. Maintenant, les joueurs d'avant sont beaucoup plus responsables défensivement qu'ils pouvaient l'être il y a quelques années. Donc, sont capables de s'adapter puis de jouer aussi dans leur zone quand ils ont à le faire. Mais ça reste que quand tu as 5 attaquants qui ont faim ou 4 attaquants qui ont faim de compter les buts sur la glace, ben ça devient dur pour l'autre équipe de contrer ça.
Puis l'autre, c'est que je regardais surtout ça parce que bon, le nouvel arrivé, Zachary Bolduc s'est fait demander cet été d'aller s'entraîner, s'est mis en jeu. Il y a la question qui se demande est-ce qu'il va jouer au centre pour le Canadien, est-ce qu'il va jouer à l'aile. Puis ben, en ce moment, la plupart des coachs dans la Ligue nationale vont y aller plus sur la latéralité. Donc si la mise en jeu est à gauche, ça va être un joueur gaucher qui apprend. Puis si c'est à droite, ça va être un droitier. Là, moi, j'essaie de comprendre un peu. En quoi c'est un avantage d'un d'être à gauche puis d'être gaucher et l'inverse pour la droite? Puis est-ce que c'est quelque chose qui vraiment vient s'installer dans un système à votre niveau?
Ben oui, certainement, parce que quand tu es de mise en jeu à gauche, tu es sur ton revers, tu as beaucoup c'est plus ça. De force pour gagner ta mise au jeu que si tu y vas contre ta force, si tu veux. Donc oui, c'est quelque chose que tu peux utiliser. Moi, je l'utilise surtout en zone défensive. Là. Okay. Quand on veut être sûr de gagner la mise au jeu, des fois je vais envoyer un ailier qui est capable de prendre des mises en jeu droitier si mon centre est gaucher ou peu importe, mais souvent c'est le temps de la mise au jeu. Tu sais, on a hâte à Montréal d'avoir un joueur de centre qui va un joueur de centre, c'est quelqu'un qui joue défensivement, c'est quelqu'un qui charrie à rondelle, c'est quelqu'un qui te donne de l'énergie à ta ligne. Tu sais, moi, qu'on l'utilise au centre ou pas, Zachary Bolduc, ça me dérange pas pantoute, mais j'espère que oui, ça peut être un skills de juste prendre des mises au jeu. Par contre, il peut être plus que ça aussi. Puis moi, j'ai pour dire qu'il n'y a pas un joueur de hockey qui n'est pas capable de s'adapter. C'est sûr que la Ligue nationale, probablement qu'ils ont un petit peu plus de pression que moi de gagner. Là. Je veux dire, moi aussi, je veux gagner tous les soirs quand je mets ma cravate, je veux gagner. Sauf qu'à un moment donné, un joueur de hockey, c'est un joueur de hockey. S'il faut que tu l'essayes au centre, ben il faut que tu l'essayes, puis il faut que tu sois patient. Puis quand tu crois en quelqu'un, ben il faut que tu lui donnes la chance d'être capable de le faire.
Parfait. Puis juste pour finir, un petit bonbon, là, dans les dernières années, au début de la saison, on était capable un peu de savoir c'était qui le premier choix overall du draft LHMQ de l'année d'après. Là, Joseph, l'année passée, c'était comme déjà, ça faisait 2 ans qu'on entendait parler. Fait que là, c'est ça. Juste un petit bonbon, peut-être savoir, peut-être aller enregistrer un ou deux comptes Elite Prospect pour les garder un œil dans les prochaines années. Mais y a-tu peut-être dans ton équipe ou peut-être ailleurs, je vais te laisser choisir, y a-tu un ou deux gars qui pourraient me dire là pour cette année au repêchage LHMQ, watch out, il va être top 3?
Écoute, j'en ai des noms en tête, c'est mais bon. Dans le niveau que je coach en ce moment, c'est zéro dans mes intentions de mettre une pression sur les jeunes de 15 ans. Si je coacherais junior, ça serait des 18 ans ou quelque chose comme ça. Ça serait peut-être, je me prononcerais peut-être un petit peu plus, mais de dire aujourd'hui que tel joueur, je pense, va être repêché dans les 3 premiers, je trouve que je mets énormément de pression sur ce petit gars-là, puis j'ai pas envie de faire ça. Excuse-moi de ne pas répondre.
Ben non, bonne réponse, t'as bien été coaché.
Yes!
C'est bon. Ben, merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci bonne continuation beaucoup. De saison. Puis yes. Je te relance à Zach et Seb.
Bonne saison.
Merci.
Bon, merci Jules, toujours aussi. Ah ouais, ok, pardon.
Ah, attends, son est dans le bout.
C'est mieux.
Je sais pas si c'était moi, ouais, c'est bon.
Parfait, j'ai dit merci. Jules, toujours.
Désolé pour ça, c'est pas tes pailles.
D'habitude, après un segment avec Jules, on a besoin d'une bonne gorgée d'eau, fait que je sais pas si tu l'as déjà pris.
Ouais, je l'ai pris, je
crois. Honnêtement, il nous reste deux petits segments, ils sont plus courts que les autres, après on te laisse passer une belle soirée, c'est bon?
Aucun problème.
Parfait. On va commencer tout de suite avec la première question qu'on a de Nico. La deuxième, ça va être pour les tirs de barrage. Le coach le plus intense que tu as affronté?
Que j'ai affronté?
Ouais.
Je te dirais Félix Potvin.
OK.
Avec les cantonniers, là, il était très calme en arrière du banc, mais ses équipes, il était intense, il était hard, il était structuré. C'était quelque chose à Magog là, quand on jouait contre les équipes à Félix.
Je ne me trompe pas, ils ont souvent été à la Coupe Jimmy Ferrari, ces équipes-là.
Écoute, ça fait 8 ans que je suis Midget 3, je pense que ça fait 6 que c'est Magog qui y vont. Fait que,
okay, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ton moment de
bienvenue. On a eu une belle bataille. Ma première année dans la Ligue, on a perdu en 4e overtime, puis c'est des 20 minutes, là, comme dans le National ou dans le Junior. Là. Donc, on était en quart de finale de Ligue. On a perdu 1-0, game 4 à maison. Les tirs, je pense, c'était 88 à 62. C'était un record de ligue. Puis c'était quand même toute une expérience pour moi de coacher cette game-là.
Ah, c'est sûr.
ton moment de bienvenue comme coach dans le M18-3A. Par là, on veut dire, y a-tu une fois, tu t'es fait surprendre, tu as eu l'air fou. Ben, y a probablement pas eu de bagarre de coach, là, mais c'est plus facile à poser un joueur, mais...
On n'est pas dans une bataille de coach. Je te dirais, où est-ce que j'ai eu l'air fou? Me préparer, mettons, pour une vidéo, puis que tout lâche. Okay. Fait que t'as callé un meeting vidéo, mettons, pour tes joueurs. Tout le monde est prêt, tout le monde est dans la chambre. Tu plugues ton laptop, puis t'avais oublié de saver ton vidéo ou de quoi de même. Fait que finalement, ouais, les boys, ça va être un autre shot, parce que ça n'a pas savé ou de quoi de même. Mais sinon, non, c'est pas arrivé souvent, là.
Okay. Pour les coachs, vous avez-tu. C'est-tu flow hockey pour la M18? Ouais, c'est-tu.
Ben, on a flow hockey pour écouter les autres matchs. Par contre, on a Exos, c'est Catapult. C'est un logiciel de coach qu'on a. Moi, j'ai un vidéo coach qui découpe live. Fait que je suis capable de voir les séquences entre les périodes. Puis après le match, on le met sur un cloud. Et les autres entraîneurs, ils ont accès, dans le fond, à notre match avec nos clips pour être capables de faire du scouting sur nous autres. Là.
OK. OK. Ouais. T'aurais-tu une anecdote ou plusieurs à nous raconter?
Anecdote. Écoute, j'ai deux trous en lien avec l'Abitibi.
OK, vas-y.
La première, tantôt, tu me parlais des lunchs dans l'autobus.
Ouais.
Quand j'étais midget espoir, quand moi je jouais, on est allé jouer contre les Filons de Malartic.
Okay, ouais.
Je ne sais pas s'ils sont encore là ou quoi que ce soit, mais on est allé là-bas, on a mangé deux volets. Okay. Puis en revenant, on ramassait du Saint-Hubert à Mont-Laurier. Puis le coach, dans le fond, c'était, tu me demandais qu'est-ce qu'on mangeait. Tantôt, j'ai failli te le compter, mais je me suis dit je le garderais pour là. Dans le fond, on avait mangé, c'était une poitrine de poulet, pas de peau, sur de la salade, pas de vinaigrette, pas de sauce.
Okay.
Okay. Fait que là, on venait de faire 6 heures de boss après une game de hockey. On avait toute faim. On voulait manger. On s'est fait donner ça. Fait que on était un peu comme des lapins. Puis on mangeait ce qu'on avait. Là. Je me suis dit, c'est tout le temps bon. Je la compte souvent à mes joueurs, au moins une fois par année, pour qu'ils se rendent compte à quel point ils sont chanceux de pouvoir choisir 2-3 repas, peu importe l'issue de la rencontre.
C'était-tu une sorte de punition un peu pour
si mettons on aurait gagné, on aurait eu. C'était fini, là. On était le samedi soir, on revenait, ou le dimanche soir, on revenait, là. On aurait mangé normal avec du riz et de la sauce à poulet, puis tu sais, comme on aurait mangé bien normal, là. Okay. Puis ça, c'était une punition. Ça. Après ça, ben, en revenant, ça se fait plus aujourd'hui, mais je me rappelle qu'on avait couru dans les estrades à minuit et demi en arrivant, puis ça n'avait pas été une très belle relation pour commencer avec l'Abitibi.
Une volée, c'était pas juste 4-0 là, pour courir à minuit.
Non, on avait perdu, je pense, 7-1 le samedi soir, puis genre 6-0 le dimanche ou quelque chose de même. Fait que.
Je comprends le poulet.
Je me ramasse dans le journal de Montréal puis je coach plus.
Poulet pas de peau d'abord.
Yes. Sinon, j'en ai une. Je vais pas raconter à détail parce que je veux pas nommer de monde puis je veux pas qu'on aille là-dedans trop. Là, mais à ma première année comme coach, j'avais 23 ans. J'étais en chef au M17-3. 23 ans, c'est quand même jeune, honnêtement, pour gérer un groupe de même. Là. J'avais aussi un groupe de parents à gérer. Quand on est arrivé, on est allé en Abitibi, on avait gagné nos deux matchs. J'étais super fier de la performance de mes joueurs. Puis à Mont-Laurier, j'ai eu une bataille de parents dans l'autobus. Deux parents là, qui étaient comme pas contents. Puis il y a eu une bataille de parents dans l'autobus que j'ai eu à gérer, moi, à 23 ans. Toi, en arrière, toi, c'est toi en avant. Ouais, mais moi, je vais appeler la police. Tu l'appelleras à Châteauguay, on s'en va. Tu sais, ça avait été quelque chose pareil à gérer là, à 23 ans, revenant de l'Abitibi.
Hey, ça me fait passer un peu à un truc. Parce que, mettons, hockey mineur, là, les parents, tu sais, on paye, on veut que notre enfant joue. Tu as dit qu'en série, tu avais un avantage numérique de 5 attaquants. Est-ce que tu as ça un peu la relation avec parents de joueurs à gérer ou à ce moment-là, je veux dire, les joueurs sont rendus assez à un haut niveau pour que les parents disent rien.
Écoute, au M18-3, là, j'espère que tu as aussi entendu que j'étais à deux matchs du début de l'année et que je jouais tout le monde sur le powerplay. J'espère que tu l'as entendu, ce segment-là aussi. Oui, oui. Ce qui est important, dans le fond, là, moi, je reste à un niveau où ce qui est, pour développer mes joueurs, il faut aussi coacher pour gagner, il faut les mettre dans des bonnes chaises. Donc, mm-hmm. si je jouais à 5 attaquants sur l'avantage numérique, certainement que les autres joueurs qui étaient sur le banc, il y avait du désavantage numérique. Puis tout le monde était impliqué dans un certain rôle dans mon équipe. Fait que, mais non, les parents, dans le fond, on fait tout le temps une rencontre là, en début de saison pour expliquer les rôles avec les parents, les joueurs, ils l'acceptent. J'ai quand même une très bonne communication. Je suis capable de. Tu sais, il y a des coachs qui sont fermés et qui ne veulent pas parler à personne. Moi, je suis pas comme ça. Donc, je m'explique, je parle, puis j'ai 99% l'appui des parents, selon moi, là, dans ce qu'on fait. Là.
OK.
Okay. T'avais-tu une troisième anecdote?
Ouais, elle est un peu moins le fun, celle-là. Je pense que ma blonde ne serait pas impressionnée de l'entendre, mais je vais la raconter quand même. Dans le fond, l'an passé, on est allé à Amos, là, dans le camp d'entraînement.
OK.
Fait que ça a parti la fin de semaine. Ben, c'est la pire fin de semaine de ma vie, juste pour te dire ça. Dans le fond, on est le vendredi, puis je décide de parler en arrière du banc. C'est mes deux adjoints qui vont coacher. Mm-hmm. Fait que entre la 1 puis la 2, je regarde mon sel, puis là, ben, je fais « Ah, t'es pas sérieux, je regarde. » Puis c'est ma blonde qui m'envoyait des vidéos. On avait un dégât d'eau à la maison. Fait que là, ça rentre partout. Puis là, moi... Je suis en Abitibi, là. Ma blonde, elle aurait bien aimé ça d'après moi que je prenne un avion, que je m'en vienne gérer ça, mais j'aurais 35 jeunes là-bas. Fait que pas trop le fun comme anecdote, le dégât d'eau. Fait que on va jouer. Là, moi, pendant que les gars ils jouent, oui, je regarde la game, mais je suis au téléphone aussi, essaye de gérer ça un petit peu. Entre la 2 et la 3, je descends dans la chambre, mon adjoint il regarde son téléphone et il dit « Ah ben, t'es pas sérieux. » Lui avec, il y en avait un chez eux. Il y avait eu une grosse pluie. Fait que les deux, on était pognés à Amos avec des dégâts d'eau chez nous. Fait que le lendemain, on joue notre game. Il fait gros soleil à Amos. On est comme, ouais, nos femmes, ils ont quand même hâte qu'on arrive à la maison pour aller gérer ça. Et asti, l'autobus a pété en disant Val d'Or.
Oh non! Ah,
là, moi, j'ai 30 jeunes dans le bus. On a finalement couché. Est-ce-tu le Forestel au coin?
Ouais.
On était pas loin de là. On a réussi à se rendre là avec l'autobus. La compagnie d'autobus nous a fait descendre un autobus de Châteauguay jusqu'à Amos dans la nuit. On a dormi là, puis le lendemain matin, on est reparti avec cet autobus-là, mais c'était un peu comme un film, mettons. Là. On fait avait hâte de que ça arrête.
Fait que t'as une relation amoureuse avec l'Abitibi, un peu.
Ouais, ben c'est une belle place. J'aime ça y aller, mais ça va pas bien souvent quand j'y vais.
C'est comme Nicolas qui dit « Tu vas voir l'Abitibi de travers. »
Ouais, mais pas tant que ça. Je suis pas rancunier, mais je suis en train de me demander si c'est pas une touche de malchance.
C'est bon, on va passer au dernier segment, les tirs de barrage.
Le segment tir de barrage est une présentation de Steve Lord, représentant de Molson Coors. Bonne écoute.
Parfait, tir de barrage, une couple de questions à rafale pour toi. Après, on te laisse partir. C'est bon?
C'est bon.
Okay. Question de Nicolas encore. Il a décidé qu'il était pertinent lui à soi. On parle souvent de rituels chez les joueurs qui se préparent avant un match. Toi, en tant que coach, est-ce qu'on a des rituels?
Ouais. Ouais, ben tu sais, moi aussi j'ai une routine dans le fond. Je te dirais, demain j'ai un match, puis la journée de match, normalement, pour moi, il faut qu'elle soit relativement tranquille. Il faut que, tu sais, mon vidéo il est fait. Aujourd'hui, j'ai déjà fait avec les joueurs. Il va juste me rester trois petites séquences à montrer avant le match demain. C'est d'être prêt. La journée du match, il faut que je sois prêt quand les joueurs y arrivent. Il ne faut pas que je sois dans le jus pendant 8 heures de temps avant que la game commence, sinon je suis mort. Après ça, ben c'est sûr qu'avec avec mes adjoints, on a quelques petites routines. Là. Mon adjoint Fabien, il s'occupe du désavantage numérique. On aime bien ça, manger quelques petits bonbons pendant le match parce que, par expérience, j'ai déjà eu un coach quand toutes les fois qu'il me parlait, ça sentait pas très bon. J'essaie d'avoir une haleine un petit peu fraîche quand que je parle à mes joueurs. Et, on s'estime tout le temps pour les mauves, les Jolly Ranchers mauves au raisin. Fait que à toutes les fois qu'on tue un désavantage numérique, ben il m'offre un Jolly Rancher Mauve. Puis à toutes les fois qu'on score un but sur l'avantage numérique, c'est moi qui en offre un. Fait que on a un petit rituel comme ça, là, ensemble, on a bien du fun.
OK, c'est bon aussi. C'est bon, c'est
bon. T'as parlé de ton joueur préféré avant, c'était Joe Sakic, mais présentement, t'en as-tu un?
J'ai pas le choix de te dire Sidney Crosby. comme coach, là, c'est partout. Mm-hmm. C'est Monsieur Canada, c'est capitaine, c'est joueur défensif, joueur offensif. À toutes les années, tu te dis qu'il va ralentir, puis il ne ralentit pas. C'est le genre de joueur que tu veux bâtir ton équipe. Donc, comme coach, c'est sûr que c'est dur d'y aller contre un Sidney Crosby. Là.
Ah ouais.
T'as-tu une opinion sur où est-ce qu'il va finir sa carrière? Est-ce qu'il finit à Pittsburgh? Ou...
Je pense pas.
Je pense pas.
Mais je pense qu'on va être déçus. Moi, je pense que ça va être au Colorado. Je t'ai dit que c'était mon équipe préférée tantôt, autre que le Canadien. J'aimerais ça qu'il vienne avec le Canadien, mais selon moi, son petit lien personnel avec Nathan McKinnon, ça va jouer là-dedans. Là.
Ça se pourrait très bien. Un entraîneur que tu admires, il y en a-tu un que tu essaies de prendre des notes ou exemples un peu?
Un petit peu tout de ce que je côtoie. T'sais, il y a beaucoup de choses dans ce que je fais, mettons, qui est de Steve Hartley. Quand que j'ai coaché Midget Espoir, Steve il était à Châteauguay au M18-3A, puis il m'a accueilli dans son staff comme vidéo coach. Donc, j'ai eu accès à ses pratiques, j'ai eu accès à ses matchs, à ses game plans, à ses façons de faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de Steve. J'ai tout le temps trouvé que c'était un coach qui était capable de s'ajuster rapidement, peu importe c'était quoi la situation. Il m'a bien appris à pas mourir avec ta première idée. Il faut que tu ouvres l'esprit puis de changer tes choses. Des fois, tu vas admettre à tes joueurs, écoute les boys, je pensais que ça marchait, mais là, on l'a pas pantoute. On va revenir à ça ou on va changer. De pas mourir avec ta première idée puis d'être borné. Sinon, tu sais, c'est sûr, certain que j'ai appris énormément là, en 5 ans avec Éric Lecomte. Là. Une intensité, une prestance assez impressionnante. Donc, j'essaie de faire un mix de mentors, de coachs que j'ai pu côtoyer dans le temps. Si tu me parles de la Ligue nationale, c'est un petit peu dur pour nous de le voir. T'sais. Présentement, j'écoute 24CH. Martin Saint-Louis, il a l'air assez le fun à voir aller, mais pour nous, on ne les voit pas aller au quotidien. C'est dur de dire « je m'inspire de lui ». C'est sûr, certains qu'en regardant le hockey, des fois, je vais prendre un face-off de Saint-Louis, je vais prendre un système de jeu de Minnesota ou de peu importe, mais m'inspirer de coach, je pense qu'il faut que ça soit de monde que tu connais.
OK.
Si tu ne serais pas coach de hockey, tu serais coach de quoi?
c'est une bonne question. Je te dirais coach de soccer probablement, parce que cet été, je suis allé voir souvent mon petit gars jouer au soccer, puis j'aurais été capable de mettre la vie là-dedans probablement. Là.
Est-ce que tu as des passe-temps autres que le hockey, coacher et être père à temps plein?
Écoute, c'est sûr, j'adore jouer au golf. Je joue à Balmol une fois par semaine avec mes amis. Je salue les gars de Pneu Robert. On a nos séries en fin de semaine. L'hiver, je joue au hockey une fois par semaine aussi avec les mêmes gars qu'on joue à balle. C'est mes amis d'enfance. Sinon, tu sais, oui, c'est sûr, avec la famille. Mais j'ai une blonde très compréhensive. Elle m'appuie dans mes choses. Puis c'est super le fun de pouvoir être capable de faire d'autres choses là-dedans aussi. Là.
Parfait.
Ton foursome de golf de rêve, ça peut être des célébrités, des joueurs de hockey, ça peut être des personnes décédées.
Je te dirais Tiger Woods, là, serait le fun de jouer avec lui au golf et d'entendre ses histoires personnelles aussi. sinon, on m'a dit, j'aimerais ça jouer avec Sidney Crosby. Puis l'autre personne avec qui j'aimerais jouer, ce serait probablement un coach, là, un Bob Hartley ou quelque chose de même, là, Michel Therrien, un vieux de la vieille qui a plein d'histoires puis plein d'anecdotes dans toutes les ligues du monde. Là. Je pense qu'on pourrait passer un beau 4-5 heures à jouer au golf ensemble.
Yes. C'est bon. Qu'est-ce que tu dirais au Marc-Olivier plus jeune? Celui qui commence à être coach ou celui qui joue junior 3A, tu dis?
Je dirais d'avoir... comment je pourrais dire ça? Parce que j'ai tout le temps eu de la passion. Quand je jouais au début, je ne mettais pas nécessairement tout le temps les efforts. Je l'ai mis à la fin, mais il était rendu trop tard. Quand j'ai commencé à coacher, c'est là, je pense, que j'ai pu monter les échelons quand même assez rapidement. Je les ai mis, les efforts. Puis aujourd'hui, ça paye, là. Fait que non, je dirais de mettre les efforts aussi forts que la passion aller. Les choses après, ça va bien.
Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite?
Pour la suite, écoute, j'aimerais ça avoir une belle saison avec mon équipe cette année. Essayer de gagner un championnat certainement. Après ça, sûr et certain que si vous me souhaitez quelque chose, je vais dire que ma famille soit en santé. J'aimerais ça, dans les prochaines années aussi, peut-être essayer de graduer dans la GMQ.
C'est sûr qu'on te souhaite tout ça. On te souhaite tout ça, puis merci beaucoup d'être passé. Ça a été un heure très apprécié. Je t'avais dit 30 à 45 minutes, mais on a eu bien de la josette ensemble.
Merci de l'avoir dit, 30 à 45 minutes. Comme ça, ma blonde, on va me croire quand on va raccrocher. Fait que c'est bien correct. Ça a été super le fun, les boys. Vous avez un beau podcast, puis je vous souhaite le mieux.
Merci.
Salut, bye.
Après moi et Seb, au début, il disait qu'il allait parler à Olivier pour savoir comment qu'on est et tout. Ouais. Il a passé un bon moment, je pense.
Non, c'est
il
ça, je pense qu'il
va dire qu'il peut venir.
Ouais, il va dire Jules parle beaucoup, mais sinon. Non, c'était très le fun de retrouver Jules, le commentaire de Nicolas. Jules, belle coupe de cheveux. On a Sébastien Charon, salut le podcast Les Boys. Merci, thanks, Seb, c'est très apprécié. Je pense qu'on va être prêt pour le ref. Il va donner un coup de filet.
Ok, les deux gadouris! Hey, deux minutes chaque! Yes! Merci! Le maire aussi! Le maire! Ah ouais, on perd quand même! Deux minutes chaque! Yes! Le ciel est tout seul!
Hey, tu cries en sacrement, ben?
Ben oui, écoute, c'est ça. Quand on est ref, il faut se faire respecter, puis il faut être sûr que le monde nous entend. Hein?
Le respect envers les joueurs aussi.
J'en veux pas pour personne. Écoute, je fais juste donner mon point. Va-t'en dans le box, c'est ça, tu l'as mérité. That's it, that's it. Bref! Ben non, c'est ça. C'est un peu cas. La semaine passée, je vous ai parlé un peu de tennis. La finale du double féminin n'était pas terminée. Puis je me souvenais même plus de son nom, mais je l'ai cette semaine. On parle de Gabrielle Dabrowski qui a gagné avec sa partenaire Erin Rutliff. Elle, c'est une Anglaise par contre. Et donc, Canada, champion au US Open en fin de semaine, ça a fini dimanche. Une autre nouvelle, écoute, qui a frappé quand même le monde du sport. On s'en attendait tout. Mais bref, monsieur, le contrat de M. Carey Price donc, est changé au Sharks de San Jose en échange d'un choix de cinquième ronde contre Gannon Larocque. Écoute, Gannon Larocque probablement qu'il jouera jamais en Real, même chose que là. Pardon?
Abs Legend. Gannon Larocque, Abs Legend.
Oui, il a même déjà annoncé sa retraite, je pense. Bref, quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, écoute, mais personnellement, je suis juste content que ce ne soit pas un choix de première ou un choix de deuxième ronde. Même si les Canadiens, dans leur cycle, sont comme plus absolument avoir un choix de première ronde. Je suis content, moi, qu'il n'ait pas donné pour le contrôle de Carey Price, qui, en passant, écrivez mes mots si vous voulez, je suis pas mal sûr que Carey va signer un contrat d'une journée à la fin de la saison pour pouvoir dire qu'il a pris sa retraite dans l'uniforme des Canadiens.
Ouais.
Ok. Ben oui. Je sais qu'il y a d'autres choses qui s'est passé dans le monde du sport, mais pour aujourd'hui, écoute, on va se concentrer juste là-dessus. Parce que j'ai quand même quelque chose dans l'ovation du F. Fait que hashtag remplissons les arénas, l'ovation du F cette semaine, c'est juste pour toutes les jeunes qui ont réussi à percer l'alignement de la LGMQ. Je dis les jeunes de 16 ans, pourquoi? Ben parce que c'était leur première occasion. Donc, c'est sûr que ceux qui ont 17-18, que c'est leur première année aussi, félicitations. C'est juste que c'est un fait d'arme quand même là, à 16 ans de percer un alignement. Certaines équipes n'avaient pas de place pour leur choix de première ronde ou peu importe. Mais bref, c'était juste ça. Je voulais l'applaudir finalement, les jeunes de 16 ans qui ont réussi le fait d'arme.
Aussi, je peux t'interrompre, les 62 joueurs qui s'en vont à des camps, les 62 joueurs de la LHMQ qui vont à des camps NHL, ça, c'est très bon, je trouve, pour la Ligue.
Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est sûr que la pas juste des joueurs repêchés, il y a des invitations. Je pense à Nathan Richard et Edouard Bondard qui n'ont pas été repêchés, mais qui ont été invités au camp des Flames de Calgary. J'ai ces deux-là, là, mais il y en a plein d'autres. Là. Ouais, Mathis Langevin, qu'on parlait tantôt, qui n'a pas été repêché non plus, mais qui s'en va au Colorado, même que lui, il a été invité au camp principal. Donc, félicitations à tous ces joueurs. Le You Can Do That moment de la semaine. On y va tout de suite.
Je
ne
peux pas faire ça. Let's go, 2 minutes.
Fait que c'est ça, tu peux pas faire ça. Hockey USA. Hockey USA, tu peux pas faire ça. Mets Scott Gomez au Hall of Fame. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, le gars, là, bon, OK, oui, il a gagné le trophée Calder. Il a une saison en haut 70 points, une saison en haut des buts. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, pour un gars, je sais que le hockey américain, il est moins avancé que le hockey canadien. Exactement. Les forces équipe contre équipe, sûrement qu'aux Olympiques, ça va être Canada, États-Unis en finale. Okay? C'est rendu là. Il peut y avoir des surprises, là, la Finlande, la Suède, on s'entend. Sauf que c'est quand même deux équipes dans le top. Okay?
Ouais.
Sauf que pour ton histoire, ouais. Hockey, pour que tu mettes Scott Gomez.
C'est bugué. Ok, premièrement,
sur la bande, tu payes un micro, ce serait le fun, tu l'ailles. Deuxièmement, ton Wi-Fi, il faut arranger ça. Merci.
Ouais, ben là, écoute, mon micro, oui, t'as raison, t'as absolument raison. Faut que je l'aille avec moi. Sauf que je ne pense pas qu'on a un problème présentement. Mais vu que j'ai changé d'emploi, là, j'ai tout même laptop, fait que j'ai de l'adaptation à faire un petit peu. Fait que c'est pour ça qu'il y a des petites erreurs des fois. Bref. Tout ça pour dire que je pense pas que Scott Gomez aurait dû être dans leur, en tout cas, à la fin de la LNH. C'est mon You Can Do That, mon moment de la semaine.
Je pense qu'on est tous d'accord, puis même tu l'as annoncé la journée après qu'on ait tourné le premier épisode, c'était unanime, là, c'était assez
clair. Ouais. C'est rare que j'annonce mon You Can Do That, moment, mais là, celui-là, tu peux pas faire ça, je le dis en fin de cette année. C'est un fan de... C'est ça, fait que, bref.
En anglais, ça bug pareil, ça change rien.
Bon.
Bon, mais merci, Ref. On n'a pas 3 étoiles cette semaine. La semaine prochaine, peut-être l'autre, on va regarder pour commencer ça. Pas mal sûr.
Là, avant de commencer, comme je suis quelqu'un d'un peu cocky, Ref, as-tu le temps de regarder la NFL un peu cette semaine?
Ben oui, un petit peu, mais pas autant que j'aurais voulu.
Est-ce que tu as vu Micah Parsons dans le bel uniforme de Green Bay?
Une question, s'il vous plaît. Oui, je l'ai dit. Écoute, c'est sûr que ça me fait un petit pincement au cœur de voir Micah Parsons ailleurs qu'à Dallas.
Mais honnêtement, Dallas, je pensais qu'elle allait se faire plus de classiques que ça. Ça n'a pas été si pire leur match. Sinon, remonter, ben, je ne sais pas si c'est historique, mais crise de remontée des Bills de Buffalo.
Non.
Bon, là, ref, tu bugs, tu me coupes quand j'essaie de parler. C'est ça. Bon. Fait que là, je vais parler à Seb parce que j'ai l'impression que ref est parti. Mais fait que c'est un peu un blind ranking à 10. De 1 à 5, c'est les joueurs que vous gardez. Okay. De 6 à 10, finalement, c'est les joueurs qu'on coupe. Okay. Petit spécial, c'est tous des capitaines.
OK.
Parfait. Fait qu'on commence avec le premier. On est prêt? Adam Laurie. Puis on parle de ce qu'il peut donner à son équipe l'année prochaine, ben, la saison qui arrive.
Moi, je le mettrais 7e. Je trouve qu'il y a des meilleurs capitaines. Tu sais, oui, c'est ça. Entre 1 et 5, on garde. Puis de 6 à 10, on le coupe dans le fond.
Hey, Ref, c'est pas assez du bon contenu pour sur la bande. On va faire juste avec Seb. Je m'excuse et on te revoit la semaine prochaine. Seb, enlève-moi ça de là. OK, sur la bande, on a des grosses attentes, on a des commanditaires.
Claude,
ça ne peut pas se passer de même.
T'écriras dans les commentaires si tu le mettrais, mais moi, Adam Laurie, je le mets 7e.
Parfait. Clayton Keller.
Ah, là, tu m'en donnes une bonne. J'ai goût de dire 5, mais 6 en même temps. Bref, décide à 5 ou 6. Il y a l'air moins buggé ici.
Ben là, il y a l'air buggé, il écrit même pas.
Ok, je vais le mettre 5e, c'est bon.
5e, parfait. Ouais. Clayton Keller, le premier joueur qu'on garde. Ah, il a écrit 5, okay, il écrit
okay, c'est bon.
C'est bon. Nico Hischier.
Aïe, là, c'est... parce que je suis le mec 4 et il y en a des meilleurs, je vais me sentir mal. Là.
Ben écoute, je vais te dire, moi, mon but, c'est de te
pogner. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ben.
C'est normal que tu ne seras pas parfait.
Je vais le mettre 6, ok, je vais le mettre 6.
6, c'est bon. Ouais. Ce que Clayton Keller, je pense, apporte plus à son équipe que Nico Hischier, honnêtement. Je pense que tu as fait une bonne affaire.
Ouais.
Victor Hedman, du haut de ses 38 ans, genre.
3-10. Ben ouais, qu'est-ce qui. 38, ouais. Ok, je vais le mettre 3e.
3e, parfait. Mais pour ouais, l'instant, pour rappeler. Parfait. Pour l'instant, pour rappeler aux auditeurs, parce qu'on n'a pas d'image, là, malheureusement, ouais. Clayton Keller et Victor Hedman sont gardés, tandis que Nico Hischier et Adam Laurie sont sortis de l'équipe. Maintenant, Capitaine Zooks, Nick Suzuki.
Je vais le mettre 4, parce que je pense qu'il peut apporter dans deux sens. Il joue autant sur l'avantage que le désavantage, puis tu as vu l'année passée qu'il a pris le poids de l'équipe sur ses épaules. Ok, ouais, 4.
4, parfait. Fait que Nick Suzuki, on le garde. On va
attendre. C'est sûr.
Je te dis.
Ben, 8-9-10.
Il te reste quoi, là?
1-2, puis 8-9-10.
Ah, c'est clair, je te pogne, n'inquiète pas. peut-être. Pas finalement. Bref, ok. Bref, il n'a pas répondu encore. On passe au prochain. Rasmus Dahlin.
J'ai le goût de le mettre 8. Parce que, ouais. C'est pas facile à Buffalo.
C'est pas facile à Buffalo. Rasmus Dahlin.
Dans une autre équipe, je pourrais peut-être dire une autre affaire, mais je pense que il va se faire changer à un moment donné. C'est qu'est-ce qui arrive à Buffalo.
Puis Buffalo, on en a parlé la semaine d'avant, là, leurs trois défenseurs offensifs, ouais. C'est un peu câble.
Non, c'est ça.
Boone Jenner.
9.
9.
Je pense bien.
Dylan Larkin.
Est-ce qu'il me reste 1, 2 ou 10? Attends. Je sais qu'il apporte quand même pas 2 solides.
2 solides en tant que joueur, mais pas le club.
Ouais. Tu parles sûrement des défenseurs.
Non, il parle il parle de Rasmus Dahlin.
Ok. Ouais, ben, je pense que je vais le mettre 2. Pas un guess.
Larkin?
Ouais.
2, parfait. Alex Ovechkin.
Ok, ben là, Asti, c'est sûr que tu me pognes. Là. Je le mets premier. Si tu me sors, c'est Nick Crosby ou McKinnon, 10e, je pleure. Là. Non, je vais avec Ovechkin premier.
Il reste quoi comme position?
10.
Connor McJesus.
Ah, si. C'était sûr.
Ben, je voulais te pogner, mais l'affaire, c'est que là, j'ai même pas tout, j'ai pogné, c'est la connexion à Claude. c'est moi qui en avais une mauvaise la semaine passée, puis là, ben, je suis bien correct. Fait que je pense que j'ai volé, je dois y avoir volé de quoi, sa connexion.
Sa connexion.
Ah, tu cours.
Yes, fait qu'on va parler tout de suite de l'invité de la semaine prochaine. C'est déjà booké avec lui. J'ai rechecké aujourd'hui avec lui. C'est confirmé. C'est nul autre que le vainqueur de la Coupe Kelly. On l'a reçu à la saison 2, je ne me trompe pas. Anthony Beauregard revient au plus chaud. Anthony Beauregard redébarque à Sur la bande. Ça se passe mardi prochain, le 16 à 19h. Un gagnant de la Coupe Kelly, sa première fois, je pense. Peut-être. Non, ça se peut.
Gagnant d'une Coupe autre que la GMQ, je suis pas mal sûr que oui.
Ouais, mais on a. J'étais plus sûr si Cédric Momimi l'avait gagné, mais. Ouais, ça...
Mais non, il a pas gagné. Ben, en tout cas, je pense pas. Mais c'est pas vrai ce que j'ai dit parce qu'on a eu un gagnant de la Coupe avec les Canadiens.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça va être vraiment intéressant. C'est tout fraîchement. L'équipe des Lions Trois-Rivières a soulevé la coupe en juin. C'était la journée du repêchage à Québec. On était à Cage. Puis je l'ai callé. J'ai dit Anthony Beauregard va venir sur la bande. Puis ben, c'est ça. Ça se passe mardi prochain à 19h. C'est un épisode à ne pas manquer. Je veux dire encore un gros merci à tous nos commanditaires d'être là pour cette saison formidable. 5e saison. J'ai calculé. Aujourd'hui, c'est notre 152e épisode de Sur la bande officiel. Je sais pas si on va atteindre les 200 cette année, mais il va falloir. Si c'est pas cette année, ça va être la saison.
Fait que dans le fond, en 4 ans, on en a fait 150.
Ouais.
On est pas supposé se rendre à 200.
Non, ben c'est parce que la première saison, on a commencé en janvier.
Là-dedans. Ouais. Mais là-dedans, il y a une saison qu'à chaque fucking semaine, on en avait deux.
Ouais, c'est vrai, ça aussi. C'était pas too much, c'était intéressant, mais.
Ah, mais dis, c'était pour quelqu'un qui avait l'école puis des trucs à faire.
C'était pas mal lourdé.
La soirée où Isaac avait 18 ans.
Ouais, ouais, aussi, Isaac, il a toujours eu 18 ans. Claude, il buvait en masse. Bon, ben, je pense que ça s'éternise un peu. Merci tout le monde. Merci à Zach. Merci au ref. Merci à Jules. Merci tout le monde.
Merci à Marc-Olivier aussi.
Ouais, merci Marc-Olivier. Puis là-dessus, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. La GMQ start dans 2 semaines.
C'est ça. Pas mal le football est déjà starté. On a de quoi écouter en attendant les Canadiens.
Tournoi des recrues samedi, dimanche. Je vais être présent. Let's go, des Midoves.
Yes.
Yes, bye, à la prochaine.
Chaque moment pour une bonne mise au jeu. Avec le ref on est baveux. Mise en échec quand on peut. Tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire ou pour soulever les gros trophées. La coupe on veut l'avoir. Notre équipe est sur clore.